Alain, propos sur le bonheur, chapitre 36, de la vie privée. C'est la Bruyère, je crois, qui a dit qu'il y a de bons mariages, mais qu'il n'y en a point d'excellents. Il faudra que notre humanité se tire de ces marécages des faux moralistes, d'après lesquels on goûterait et on prononcerait sur le bonheur comme d'un fruit. Mais je dis que, même pour un fruit, on peut l'aider à être bon. Encore bien mieux pour le mariage et pour toute liaison humaine. Ces choses ne sont pas pour être goûtées ou subies, mais il faut les faire. Une société n'est pas comme un ombrage où l'on est bien ou mal, selon le temps et les courants d'air. C'est au contraire le lieu des miracles où le sorcier fait la pluie et le beau temps. Chacun fait beaucoup pour son commerce ou pour sa carrière, mais communément, on ne fait rien pour être heureux chez soi. J'ai déjà bien écrit sur la politesse, certainement sans la louer comme il fallait, et je ne dis point du tout que la politesse est un mensonge, bonne pour l'étranger. Je dis que plus les sentiments sont sincères et précieux, plus ils ont besoin de politesse. Un commerçant qui dirait « allez au diable » croirait dire ce qu'il pense. Mais voilà le piège des passions. Dans notre vie immédiate, tout ce qui se présente est faux. J'ouvre les yeux au réveil. Tout ce que je vois est faux. Mon travail est de juger, d'estimer, et de renvoyer les choses à leur distance. N'importe quelle vue est un songe d'un instant, et les songes sont sans doute de courts réveils sans jugement. Eh bien, pourquoi voulez-vous que je juge mieux de mes sentiments immédiats? Hegel dit que l'âme immédiate ou naturelle est toujours enveloppée de mélancolie comme accablée. Cela m'a paru d'une belle profondeur. Lorsque la réflexion sur soi ne redresse pas, c'est un mauvais jeu. Et qui s'interroge se répond toujours mal. La pensée qui se contemple seulement n'est qu'ennui ou tristesse ou inquiétude ou impatience. Essayez. Demandez-vous à vous-même, que lirai-je bien pour passer le temps? Vous bâillez déjà. Il faut s'y mettre. Le désir retombe s'il ne s'achève en volonté. Et ces remarques suffisent pour juger les psychologues qui voudraient que chacun étudie curieusement ses propres pensées comme on fait des herbes ou des coquillages. Mais penser, c'est vouloir. Or, ce qui se fait si bien dans la vie publique, commerce, industrie, où chacun se gouverne et se redresse à chaque instant, ne réussit pas de même dans la vie privée. Chacun se couche sur ses affections. Bon pour dormir, mais dans le demi-sommeil de la famille, tout est facilement aigre, par quoi les meilleurs sont souvent conduits à une hypocrisie effrayante. Chose à remarquer, on emploie une espèce de volonté à cacher des sentiments au lieu de les changer par volonté en se mouvant tout, comme un gymnaste. Cette idée que la mauvaise humeur, la tristesse, l'ennui sont des faits comme la pluie ou le vent est en effet la première idée et fausse. En bref, la vraie politesse consiste à éprouver ce que l'on doit. On s'oblige bien au respect, à la discrétion, à la justice. Ce dernier exemple est bon à considérer. Un retour vif à la justice, malgré le premier mouvement des passions, n'est certes pas d'un voleur. Mais bientôt, c'est la probité elle-même, sans aucune hypocrisie. Pourquoi veut-on qu'il n'en soit pas autant de l'amour? L'amour n'est pas naturel. Et le désir lui-même ne l'est pas longtemps. Mais les sentiments vrais sont des œuvres. On ne joue pas aux cartes pour les jeter au premier mouvement d'impatience ou d'ennui. Et personne n'a jamais eu l'idée de jouer au hasard sur un piano. La musique est même de tous les exemples le meilleur, car elle ne se soutient, même dans le chant, que par volonté. Et la grâce vient ensuite, comme on dit quelquefois les théologiens, sans bien savoir de quoi ils parlaient. 10 septembre 1913. Chapitre 37. Le couple. Romain Rolland, dans son beau livre, fait entendre qu'un bon ménage est rare et par des causes naturelles. En suivant les mêmes chemins, en considérant ces personnages et surtout les personnages vivants qui se sont trouvés dans mon chemin, j'aperçois des traits distinctifs qui rendent souvent les deux sexes ennemis l'un de l'autre, sans qu'ils sachent toujours bien pourquoi. L'un est affectif, l'autre actif. Cela a été dit souvent et rarement expliqué. Affectif n'est pas la même chose qu'affectueux. Ce qu'il faut entendre sous le mot, c'est une liaison plus étroite des pensées avec les sources de la vie. Cette liaison s'observe chez tous les malades, quel que soit le sexe. Mais elle est normalement plus étroite chez la femme par la prédominance naturelle des fonctions de grossesse et d'allaitement et de tout ce qui s'y rattache. D'où des changements d'humeur dont les causes sont naturelles, mais dont les effets donnent souvent l'apparence de la fantaisie, de l'incohérence, de l'obstination. Sans aucune hypocrisie, car il faut une profonde sagesse, est fort rare dans le fait, pour expliquer un mouvement d'humeur par ses véritables causes, attendu que la vraie cause change aussi nos motifs. Si une fatigue à peine sentie m'enlève le goût de la promenade, elle me fait trouver aussi des raisons de rester chez moi. On entend souvent, sous le nom de pudeur, une dissimulation des vraies causes. Je crois que c'est plutôt une ignorance des vraies causes, et comme une transposition naturelle et presque inévitable des choses du corps en langage d'âme. L'homme amoureux est comme stupide devant ces textes. L'autre sexe est incompréhensible dans l'inaction. Sa fonction propre, c'est de chasser, de construire, d'inventer et d'essayer. Hors de ses chemins, il s'ennuie, mais toujours sans s'en apercevoir. De là un mouvement perpétuel pour de petites occasions. Sa bonne volonté, en le dissimulant, l'aggrave. Il lui faut un aliment politique ou industriel, et il est commun que les femmes prennent aussi pour hypocrisie ce qui est un effet de nature. On peut voir des crises de ce genre analysé avec profondeur dans les mémoires de deux jeunes mariés de Balzac et surtout dans l'Anna Karénine de Tolstoï. Le remède à ces maux me paraît être dans la vie publique, qui agit de deux manières. D'abord par les relations de famille et d'amis, qui établissent dans le ménage des relations de politesse absolument nécessaires pour dissimuler tous ces caprices du sentiment, qui n'ont toujours que trop d'occasions de s'exprimer. Dissimuler, entendez bien, ce qui n'est que mouvement d'humeur n'est même pas senti dès qu'on ne peut le montrer. C'est pourquoi, autant que l'on aime, la politesse est plus vraie que l'humeur. Et puis la vie publique occupe l'homme et le détourne de cette oisiveté de complaisance dans laquelle il n'est jamais naturel, quelque bon vouloir qu'il y mette. C'est pourquoi il y a toujours à craindre pour un ménage trop isolé et qui se nourrit d'amour seulement. Ce sont des barques trop légères, trop mobiles au flot, sans lest. Et la sagesse, par réflexion, n'y peut pas grand-chose. C'est l'institution qui sauve les sentiments. 14 décembre 1912. Chapitre 38. L'ennui. Quand un homme n'a plus rien à construire ou à détruire, il est très malheureux. Les femmes, j'entends celles qui sont occupées à chiffonner et à pouponner, ne comprendront sans doute jamais bien pourquoi les hommes vont au café et jouent aux cartes. Vivre avec soi et méditer sur soi, cela ne vaut rien. Dans l'admirable Wilhelm Meister de Goethe, il y a une société de renoncement, dont les membres ne doivent jamais penser ni à l'avenir ni au passé. Cette règle, autant qu'on peut la suivre, est très bonne. Mais pour qu'on puisse la suivre, il faut que les mains et les yeux soient occupés. Percevoir et agir, voilà les vrais remèdes. Au contraire, si l'on tourne ses pouces, on tombera bientôt dans la crainte et dans le regret. La pensée est une espèce de jeu qui n'est pas toujours très sain. Communément, on tourne sans avancer. C'est pourquoi le grand Jean-Jacques a écrit « L'homme qui médite est un animal dépravé ». La nécessité nous tire de là presque toujours. Nous avons presque tous un métier à faire, et c'est très bon. Ce qui nous manque, ce sont de petits métiers qui nous reposent de l'autre. J'ai souvent envié les femmes parce qu'elles font du tricot ou de la broderie. Leurs yeux ont quelque chose de réel à suivre. Cela fait que les images du passé et de l'avenir n'apparaissent vivement que par éclairs. Mais dans ces réunions où l'on use le temps, les hommes n'ont rien à faire et bourdonnent comme des mouches dans une bouteille. Les heures d'insomnie, lorsque l'on n'est pas malade, ne sont si redoutées, je crois, que parce que l'imagination est alors trop libre et n'a point d'objet réel à considérer. Un homme se couche à 10 heures et jusqu'à minuit, il saute comme une carpe en invoquant le dieu du sommeil. Le même homme, à la même heure, s'il était au théâtre, oublierait tout à fait sa propre existence. Ces réflexions aident à comprendre les occupations variées qui remplissent la vie des riches. Ils se donnent 1000 devoirs et 1000 travaux et ils courent comme au feu. Ils font diviser par jour et vont du concert au théâtre. Ceux qui ont un sang plus vif se jettent dans la chasse, la guerre ou les voyages périlleux. D'autres roulent en auto et attendent impatiemment l'occasion de se rompre les os en aéroplane. Il leur faut des actions nouvelles et des perceptions nouvelles. Ils veulent vivre dans le monde et non en eux-mêmes. Comme les grands mastodontes broutaient les forêts, ils broutent le monde par les yeux. Les plus simples jouent à recevoir de grands coups de poing dans le nez et dans l'estomac. Cela les ramène aux choses présentes et ils sont très heureux. Les guerres sont peut-être premièrement un remède à l'ennui. On expliquerait ainsi que ceux qui sont les plus disposés à accepter la guerre, sinon à la vouloir, sont souvent ceux qui ont le plus à perdre. La crainte de mourir est une pensée d'oisif, aussitôt effacée par une action pressante, si dangereuse qu'elle soit. Une bataille est sans doute une des circonstances où l'on pense le moins à la mort. D'où ce paradoxe : mieux on remplit sa vie, moins on craint de la perdre. 29 janvier 1909. Chapitre 39. Vitesse. J'ai vu une des nouvelles locomotives de l'Ouest, plus longue encore, plus haute, plus simple que les autres. Les rouages en sont finis comme ceux d'une montre. Cela roule presque sans bruit. On sent que tous les efforts y sont utiles. Étant de tous à une même fin. La vapeur ne s'en échappe point sans avoir usé sur les pistons toute l'énergie qu'elle a reçue du feu. J'imagine le démarrage aisé, la vitesse régulière, la pression agissant sans secousse et le lourd convoi glissant de 2 km en 1 minute. Au reste, le temps d'air monumental en dit long sur le charbon qu'il faudra brûler. Voilà bien de la science, bien des plans, bien des essais, bien des coups de marteau et de lime. Tout cela pourquoi? Pour gagner peut-être un quart d'heure sur la durée du voyage entre Paris et Le Havre. Et que feront-ils les heureux voyageurs de ce quart d'heure si chèrement acheté? Beaucoup l'useront sur le quai à attendre l'heure. D'autres resteront un quart d'heure ou plus au café et liront le journal jusqu'aux annonces. Où est le profit? Pour qui est le profit? Chose étrange, le voyageur qui s'ennuierait si le train allait moins vite emploiera un quart d'heure avant le départ ou après l'arrivée à expliquer que ce train met un quart d'heure de moins que les autres à faire le parcours. Tout homme perd au moins un quart d'heure par jour à tenir des propos de cette force, ou à jouer aux cartes, ou à rêver. Pourquoi ne perdrait-il pas aussi bien ce temps-là en wagon? Nulle part, on est mieux qu'en wagon. Je parle des trains rapides. On y est fort bien assis, mieux que dans n'importe quel fauteuil. Par de larges baies, on voit passer les fleuves, les vallées, les collines, les bourgades et les villes. L'œil suit les routes à flanc de coteau, des voitures sur ces routes, des trains de bateaux sur le fleuve. Toutes les richesses du pays s'étalent, tantôt des blés et des seigles, tantôt des champs de betteraves et une raffinerie, puis de belles futaies, puis des herbages, des bœufs, des chevaux. Les tranchées font voir les couches du terrain. Voilà un merveilleux album de géographie que vous feuilletez sans peine et qui change tous les jours, selon les saisons et selon le temps. On voit l'orage s'amasser derrière les collines et les voitures de foin se hâter le long des routes. Un autre jour, les moissonneurs travaillent dans une poussière dorée et l'air vibre au soleil. Quel spectacle égale celui-là! Mais le voyageur lit son journal, essaie de s'intéresser à de mauvaises gravures, tire sa montre, bâille, ouvre sa valise, la referme. À peine arrivé, il hèle un fiacre et court comme si le feu était à sa maison. Dans la soirée, vous le retrouverez au théâtre. Il admirera des arbres en carton peint, des fausses moissons, un faux clocher. De faux moissonneurs lui brailleront aux oreilles et il dira, tout en frottant ses genoux meurtris par l'espèce de boîte où il est emprisonné, « Les moissonneurs chantent faux, mais le décor n'est pas si laid. » 2 juillet 1908. Chapitre 40. Le jeu. Je plains, disait quelqu'un, un homme qui vit seul, qui n'a pas de besoin ni d'inquiétude que ses ressources ne puissent calmer. Je le plains dès que l'âge ou la maladie le toucheront un peu, car il pensera trop à lui-même. Un père de famille, toujours soucieux et qui n'arrive point à se délivrer de ses dettes, est bien plus heureux malgré l'apparence, parce qu'il n'a point le temps de penser à ses digestions. Voilà une raison de se conserver quelques petites dettes, ou de se consoler si on en a. Quand on conseille aux hommes de rechercher une vie moyenne, tranquille et assurée, on ne leur dit pas assez qu'il leur faudra aussi beaucoup de sagesse pour la supporter. Le mépris des richesses et des honneurs est facile en somme. Ce qui est proprement difficile, c'est, une fois qu'on les méprise bien, de ne pas trop s'ennuyer. L'ambitieux court toujours après quelque chose où il croit qu'il trouvera un bonheur rare. Mais son principal bonheur, c'est d'être bien occupé. Et même quand il est malheureux de quelque déception, il est encore heureux de son malheur. C'est qu'il y voit remède. Et le vrai remède, c'est qu'il y voit remède. La nécessité est allée comme un grand pays, bien au clair et hors de nous, vaut toujours mieux que cette nécessité repliée que nous sentons au creux de nous. La passion du jeu fait voir ce besoin d'aventure tout nu, en quelque sorte, sans aucun ornement étranger. Car le joueur n'a jamais de sécurité, et je crois que c'est cela même qui l'intéresse. Aussi, le vrai joueur n'aime pas trop ces jeux où l'attention, la prudence, le savoir-faire corrigent beaucoup la chance. Au contraire, un jeu comme la roulette, où il ne fait qu'attendre et risquer, le transporte d'autant plus. Ce sont des catastrophes voulues en un sens, car il se dit à chaque instant « le coup prochain me ruinera peut-être si je le veux bien ». C'est comme un voyage d'exploration, très dangereux, mais avec cette condition que, d'un seul consentement de pensée, on se retrouverait en sûreté chez soi. Mais c'est ce qui explique aussi l'attrait des jeux de hasard, car rien n'y force et l'on ne risque que si l'on veut. Cette puissance plaît. La guerre a sans doute quelque chose du jeu. C'est l'ennui qui fait la guerre. Et la preuve en est que c'est toujours l'homme qui a le moins de travaux et de soucis qui est le plus guerrier. Si on saisissait bien ces causes, on serait moins touché par les déclamations. L'homme riche et oisif paraît bien fort lorsqu'il dit « La vie est facile pour moi. Si je m'expose à tant de périls, si j'appelle de tout mon cœur ces risques effrayants, il faut donc que j'y voie quelque raison invincible ou quelque nécessité inévitable. » Mais non. Ce n'est qu'un homme qui s'ennuie, et il s'ennuierait moins s'il travaillait du matin au soir. Ainsi, l'inégale répartition des biens a par-dessus tout cet inconvénient qu'elle condamne à l'ennui un grand nombre d'hommes bien nourris, d'où ils arrivent à se donner des craintes et des colères qui les occupent. Et ces sentiments de luxe sont le plus lourd fardeau des pauvres gens. 1er novembre 1913. Chapitre 41. Espérance. Un incendie me faisait penser à l'assurance. Voilà une déesse qui n'est pas aimée à beaucoup près comme la fortune. On la redoute. On lui porte de maigres offrandes sans aucun enthousiasme. Et cela est aisé à comprendre. Les bienfaits de l'assurance ne se montrent qu'en même temps que le malheur. Le plus grand bien, c'est évidemment de n'avoir point le feu chez soi. Mais c'est un bien de toutes les minutes qu'on ne sent point, comme d'avoir ses bras et ses jambes. Au regard de ce bonheur négatif, l'argent dont on le paie semble follement donné. Je ne vois que les grandes entreprises qui paient la prime sans tristesse, comme elles paient tout. Mais je plains aussi ces capitaines du commerce qui ne savent pas, à la fin de journée, s'ils ont perdu ou gagné. Sans doute leur plaisir réel vient surtout du pouvoir qu'ils exercent sur une armée de commis. Ceux qui ont de grandes espérances et de petits moyens ne peuvent aimer l'assurance. Imagine-t-on un commerçant qui s'assurerait contre la ruine? Rien ne serait plus facile s'ils mettaient tous en commun les bénéfices qui dépassent l'ordinaire. Ainsi, les maisons associées prospéreraient dans l'ensemble passablement. Les commerçants associés seraient comme des fonctionnaires, assurés d'un traitement fixe et d'une retraite. Assurés, s'ils le voulaient, d'un médecin, d'un chirurgien, d'une maison de convalescence. Assurés d'un voyage de noces et d'une suite de voyages d'agrément. C'est la sagesse même, et c'est très beau dans les livres. Mais il ne faut pas oublier que, dès que la vie matérielle est ainsi assurée, dans le sens plein du mot, tout le bonheur reste à faire. Qui n'a point de ressources en lui-même, l'ennui le guette et bientôt lui tient. La déesse loterie, que les anciens appelaient la fortune aveugle, est bien plus tendrement adorée. Ici, des espoirs immenses et en compensation la seule crainte de ne pas gagner, qui n'est rien. Si l'on imagine un office de toutes les assurances, il faudrait écrire sur la porte « Vous qui entrez, laissez toute espérance ». Contre quoi tous les marchands d'espérance ont beau jeu. Ce qui ne vient pas d'ambition seulement, qui est vanité dans le fond, mais plutôt de cette invention infatigable qui va toujours en avant de l'action et qui est lumière et joie sur tout métier. Perret, dans son pot au lait, ne voit point le repos, mais le travail, au contraire. Veaux, vaches, cochons, couvées, ce sont des soins. Chacun, en ses travaux de chaque jour, en découvre d'autres où il voudrait se jeter. L'espérance abat le mur et aperçoit l'ordre des légumes ou l'ordre des fleurs à la place des herbes folles et de la broussaille. L'assurance emprisonne. La passion du jeu est admirable à considérer. L'homme y est aux prises avec un hasard dépouillé, un hasard voulu et inventé. Il y a une assurance gratuite contre les risques du jeu. Il suffit de ne point jouer. Mais presque tous ceux qui ont du loisir se jettent aux cartes ou aux dés, adorant les sœurs jumelles et inséparables, l'espérance et la crainte. Et peut-être l'homme est-il plus fier de gagner par heureuse chance que de bien jouer. Ce qu'exprime le mot féliciter, car féliciter, c'est proprement louer le succès et non pas le mérite. Antique idée de la faveur des dieux qui surgit aux dieux. Si l'homme n'était pas ainsi, la justice égalitaire régnerait depuis longtemps, car ce n'est pas difficile. Mais l'homme n'aime guère ce qui n'est pas difficile. César règne par l'ambition de tous. C'est notre espérance couronnée. 3 octobre 1921. Chapitre 42. Agir. Tous ces coureurs se donnent bien de la peine. Tous ces joueurs de ballon se donnent bien de la peine. Tous ces boxeurs se donnent bien de la peine. On lit partout que les hommes cherchent le plaisir. Mais cela n'est pas évident. Il semble plutôt qu'ils cherchent la peine et qu'ils aiment la peine. Le vieux Diogène disait « Ce qu'il y a de meilleur, c'est la peine. » On dira là-dessus qu'ils trouvent tous leur plaisir dans cette peine qu'ils cherchent. Mais c'est jouer sur les mots. C'est bonheur et non plaisir qu'il faudrait dire. Et ce sont deux choses très différentes, aussi différentes que l'esclavage et la liberté. On veut agir. On ne veut pas subir. Tous ces hommes qui se donnent tant de peine n'aiment sans doute pas le travail forcé. Personne n'aime le travail forcé. Personne n'aime les mots qui tombent. Personne n'aime sentir la nécessité. Mais aussitôt que je me donne librement de la peine, me voilà content. J'écris ces propos, voilà bien de la peine, dira quelque écrivain qui vit de sa plume. Seulement personne ne m'y force, et ce travail voulu est un plaisir ou un bonheur, pour mieux parler. Le boxeur n'aime pas les coups qui viennent le trouver, mais il aime ceux qu'il va chercher. Il n'est rien de si agréable qu'une victoire difficile dès que le combat dépend de nous. Dans le fond, on n'aime que la puissance. Par les monstres qu'il cherchait et qu'il écrasait, Hercule se prouvait à lui-même sa puissance. Mais dès qu'il fut amoureux, il sentit son propre esclavage et la puissance du plaisir. Tous les hommes sont ainsi. C'est pourquoi le plaisir les rend tristes. L'avare se prive de beaucoup de plaisir et il se fait un bonheur vif, d'abord en triomphant des plaisirs et aussi en accumulant de la puissance. Mais il veut la devoir à lui-même. Celui qui devient riche par héritage est un avare triste, s'il est avare, car tout bonheur est poésie essentiellement. Et poésie veut dire action. L'on aime guère un bonheur qui vous tombe, on veut l'avoir fait. L'enfant se moque de nos jardins, et il se fait un beau jardin, avec des tas de sable et des brins de paille. Imaginez-vous un collectionneur qui n'aurait pas fait sa collection? Je crois assez que ce qui plaît dans la guerre, c'est qu'on l'a fait. Il y a une liberté évidente de chaque homme dès qu'il est armé. Et on rirait d'un état-major qui voudrait forcer les hommes à se battre. Mais aussitôt qu'ils sentent leur liberté, ils entrent dans une vie nouvelle et y prennent goût. Craindre la mort, il le faut toujours. Et l'attendre, et enfin la subir. Mais celui qui va au-devant d'elle et l'appelle en quelque sorte en chant-clos, celui-là se sent plus fort qu'elle. Tout le monde sait bien qu'il est plus facile à des soldats d'aller la chercher que de l'attendre, et l'on aime mieux la destinée que l'on se fait que celle que le temps apporte. Il y a donc une poésie dans la guerre qui fait que l'on ne hait même plus l'ennemi. C'est cette ivresse de liberté qui fait comprendre la guerre et toutes les passions. Une peste est imposée. Une guerre est comme inventée à la manière des jeux. C'est pourquoi il me semble que la prudence n'est pas un gage de paix qui suffise. C'est par l'amour de la justice que l'on supporte la paix. Et c'est parce que la justice est difficile à faire, plus difficile qu'un pont ou qu'un tunnel, c'est pour cela que la paix sera. Seulement pour cela. 3 avril 1911. Chapitre 43. Homme d'action. Un préfet de police est, pour mon goût, l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce qu'il agit toujours et toujours dans des conditions nouvelles et imprévisibles. Tantôt contre le feu, tantôt contre l'eau. Tantôt contre l'éboulement, tantôt contre l'écrasement, aussi contre la boue, la poussière, les maladies, la pauvreté. Enfin aussi contre la colère et quelquefois contre l'enthousiasme. Ainsi, à chaque minute de sa vie, cet homme heureux se trouve en présence d'un problème bien déterminé qui exige une action bien déterminée. Donc, point de règle générale, point de paperasse, point de récrimination ni de consolation en forme de rapport administratif. Il laisse cela à quelques bureaucrates. Lui, il est perception et action. Or, quand ces deux vannes, perception et action, sont ouvertes, un fleuve de vie porte le cœur de l'homme comme une plume légère. Là est le secret des jeux. Jouer au bridge, c'est faire couler la vie de la perception à l'action. Jouer au football, encore mieux. Sur une donnée nouvelle, imprévisible, dessiner promptement une action et tout de suite la faire. Cela remplit la vie humaine à souhait. Que voulez-vous désirer alors? Que voulez-vous craindre? Le temps dévore le regret. On se demande souvent quelle peut être la vie intérieure d'un voleur ou d'un bandit. Je crois qu'il n'en a point. Toujours à l'affût ou dormant, toute sa puissance de prévoir est en éclaireur, devant ses pieds et ses mains. C'est pourquoi l'idée de la punition ne lui vient point, ni aucune autre. Cette machine aveugle et sourde a de quoi effrayer. Mais en tout homme, l'action éteint la conscience. Cette violence sans égard s'entend dans le coup de hache du bûcheron. Elle est moins sensible dans les démarches de l'homme d'État, mais on la retrouve souvent dans les effets. On s'étonnerait moins de trouver l'homme dur et insensible comme la hache si l'on remarquait qu'il ne s'épargne pas tant lui-même. Puissance n'a point pitié, non plus pitié de soi. Pourquoi la guerre? Parce que les hommes se noient alors dans l'action. Leur pensée est comme ces lampes électriques du tramway qui baissent au démarrage. Je dis leur pensée réfléchie, d'où une puissance redoutable de l'action. Elle se justifie à sa manière parce qu'elle éteint la lampe intérieure. Par quoi une foule de passions viles sont éteintes? Toutes celles que la réflexion nourrit, comme mélancolie, dégoût de la vie, ou bien intrigue, hypocrisie, rancune, ou bien amour romanesque, ou bien vice raffiné. Mais aussi s'éteint la justice dans le courant de l'action. Le préfet de police se bat contre l'émeute de la même manière qu'il se bat contre l'eau et le feu. L'émeutier éteint sa lampe aussi, nuit barbare. C'est pourquoi il y eut des tortionnaires qui enfonçaient les coins et des juges qui recevaient les aveux. C'est pourquoi il y eut des galériens attachés sur les bancs et qui agonisaient là, qui mouraient là, en suivant le mouvement des rames, et d'autres hommes qui fouettaient. Ceux qui fouettaient ne pensaient qu'à leur fouet. N'importe quel état de barbarie durera s'il s'établit. Un préfet de police est l'homme le plus heureux. Je ne dirais pas qu'il est le plus utile des hommes. L'oisiveté est mère de tous les vices, mais de toutes les vertus aussi. Le 21 février 1910. Chapitre 44. Diogène. L'homme n'est heureux que de vouloir et d'inventer. Cela se voit dans le jeu de cartes. Il est clair, d'après les visages, que chacun contemple alors sa propre puissance de délibérer et de décider. Il y a des Césars de la manille et des passages du Rubicon à chaque instant. Même dans les jeux de hasard, le joueur a tout pouvoir de risquer ou de ne pas risquer. Tantôt il ose, quel que soit le risque, tantôt il s'abstient, quelle que soit l'espérance. Il se gouverne lui-même, il règne. Le désir et la crainte, importuns conseillers dans les affaires ordinaires, sont ici hors du conseil, par l'impossibilité où l'on se trouve de prévoir. Aussi le jeu est-il la passion des âmes fières. Ceux qui se résignent à gagner en obéissant ne conçoivent même pas le plaisir de jouer au baccarat. Mais s'ils essaient, ils connaîtront, au moins pendant un court moment, l'ivresse du pouvoir. Tous les métiers plaisent autant que l'on y gouverne et déplaise autant que l'on y obéit. Le pilote du tramway a moins de bonheur que le chauffeur de l'omnibus automobile. La chasse libre et solitaire donne des plaisirs vifs, parce que le chasseur fait son plan, le suit ou bien le change, sans avoir à rendre des comptes, ni à donner ses raisons. Le plaisir de tuer devant des rabatteurs est bien maigre à côté. Mais encore est-il qu'un habile tireur jouit de ce pouvoir qu'il exerce contre l'émotion et la surprise. Ainsi, ceux qui disent que l'homme cherche le plaisir et fuit la peine décrivent mal. L'homme s'ennuie du plaisir reçu et préfère de bien loin le plaisir conquis. Mais par-dessus tout, il aime agir et conquérir. Il n'aime point pâtir ni subir. Aussi choisit-il la peine avec l'action plutôt que le plaisir sans action. Diogène, le paradoxal, aimait à dire que c'est la peine qui est bonne. Il entendait la peine choisie et voulue, car pour la peine subie, personne ne l'aime. L'alpiniste développe sa propre puissance et se la prouve à lui-même. Il la sent et la pense en même temps. Cette joie supérieure éclaire le paysage neigeux. Mais celui qu'un train électrique a porté jusqu'à une cime célèbre n'y peut pas trouver le même soleil. C'est pourquoi il est vrai que les perspectives du plaisir nous trompent. Mais elles nous trompent de deux manières. Car le plaisir reçu ne paie jamais ce qu'il promettait, alors que le plaisir d'agir, au contraire, paie toujours plus qu'il ne promettait. L'athlète s'exerce en vue de conquérir la récompense. Mais aussitôt, par le progrès et par la difficulté vaincue, il conquiert une autre récompense qui est en lui et dépend de lui. Et c'est ce que le paresseux ne peut pas du tout imaginer, car il ne voit que la peine et l'autre récompense. Il pèse l'une et l'autre et ne se décide point. Mais l'athlète est déjà debout et au travail, soulevé par l'exercice de la veille et jouissant aussitôt de sa propre volonté et puissance. En sorte qu'il n'y a d'agréable que le travail. Mais le paresseux ne sait pas cela et ne peut pas le savoir. Ou bien, s'il le sait par ouï dire ou par souvenir, il ne peut pas le croire. C'est pourquoi le calcul des plaisirs trompe toujours, et l'ennui vient. Quand l'animal pensant s'ennuie, la colère n'est pas loin. Toutefois, l'ennui d'être serf me paraît moins aigre que l'ennui d'être maître, car si monotone que soit l'action, il reste toujours à gouverner et à inventer un peu. Au lieu que celui qui reçoit les plaisirs tout fait, est naturellement le plus méchant. Ainsi, le riche gouverne par l'humeur et par la tristesse. La faiblesse du travailleur vient de ce qu'il est plus content qu'il ne voudrait. Il fait le méchant. 30 novembre 1922. Chapitre 45. L'égoïste. Une des erreurs de nos religions occidentales, comme le marque Auguste Comte, c'est d'avoir enseigné que l'homme est égoïste toujours et sans remède, à moins d'un secours divin. Cette idée a tout infecté, et jusqu'au dévouement. En sorte que, parmi les idées les plus populaires, et aussi bien chez les esprits les plus libres, on trouve cette étrange opinion que celui qui se sacrifie cherche encore son plaisir. L'un aime la guerre, l'autre la justice, moi j'aime le vin. L'anarchiste même est théologien. La révolte répond à l'humiliation. Tout cela est du même tonneau. Dans le fait, on devrait voir que l'homme aime communément plutôt l'action que le plaisir, comme les jeux de la jeunesse le montrent bien. Car qu'est-ce qu'une partie de ballon sinon des bousculades, des coups de poing et des coups de pied, et enfin des marques noires et des compresses. Mais tout cela est ardemment désiré, Tout cela est recueilli par le souvenir. On y pense avec transport. Les jambes veulent déjà courir. Et c'est la générosité qui plaît, jusqu'à faire mépriser les coups, la douleur, la fatigue. On devrait aussi considérer la guerre, qui est un jeu admirable, et qui fait voir plus de générosité que de férocité. Car ce qui est surtout laid dans la guerre, c'est l'esclavage qui la prépare et l'esclavage qui la suit. Le désordre des guerres, en somme, c'est que les meilleurs s'y font tuer et que les habiles y trouvent occasion de gouverner contre la justice. Mais le jugement instinctif s'égare encore ici, et les braves gens, comme Déroulède, trouvent leur plaisir à être dupes. Tout cela est beau à considérer. L'égoïste se moque vainement parce qu'il veut soumettre les sentiments généreux au calcul des plaisirs et des peines. Nigo que vous êtes, qui aimez la gloire, et encore pour d'autres. Et Pascal, le génie catholique, Pascal a écrit cette parole où il n'y a que l'apparence de la profondeur. Nous perdons la vie avec joie, pourvu qu'on en parle. C'est le même homme qui s'est moqué du chasseur, qui se donne bien du mal pour prendre un lièvre, dont il ne voudrait point s'il était donné. Il faut que le préjugé théologique soit bien fort pour cacher à des yeux humains que l'homme aime l'action plus que le plaisir, l'action réglée et disciplinée plus que toute autre action, et l'action pour la justice par-dessus tout. D'où résulte un immense plaisir, sans doute. Mais l'erreur est de croire que l'action court au plaisir, car le plaisir accompagne l'action. Les plaisirs de l'amour font oublier l'amour du plaisir. Voilà comment il est bâti ce fils de la terre, dieu des chiens et des chevaux. L'égoïste, au contraire, manque à sa destinée par une erreur de jugement. Il ne veut avancer un doigt que s'il aperçoit un beau plaisir à prendre. Mais dans ce calcul, les vrais plaisirs sont toujours oubliés, car les vrais plaisirs veulent d'abord peine. C'est pourquoi, dans les calculs de la prudence, les douleurs l'emportent toujours. La crainte est toujours plus forte que l'espérance, et l'égoïste finit par considérer la maladie, la vieillesse, la mort inévitable. Et son désespoir me prouve qu'il s'est mal compris lui-même. 5 février 1913. Chapitre 46. Le roi s'ennuie. Il est bon d'avoir un peu de mal à vivre et de ne pas suivre une route toute unie. Je plains les rois s'ils n'ont qu'à désirer, et les dieux, s'il y en a quelque part, doivent être un peu neurasthéniques. On dit que dans les temps passés, ils prenaient forme de voyageurs et venaient frapper aux portes. Sans doute, ils trouvaient un peu de bonheur à éprouver la faim, la soif et les passions de l'amour. Seulement, dès qu'ils pensaient un peu à leur puissance, ils se disaient que tout cela n'était qu'un jeu et qu'ils pouvaient tuer leurs désirs s'ils le voulaient, en supprimant le temps et la distance. Tout compte fait, ils s'ennuyaient. Ils ont dû se pendre ou se noyer depuis ce temps-là. Ou bien ils dorment comme la Belle au bois dormant. Le bonheur suppose sans doute toujours quelque inquiétude, quelque passion, une pointe de douleur qui nous éveille à nous-mêmes. Il est ordinaire que l'on n'ait plus de bonheur par l'imagination que par les biens réels. Cela vient de ce que, lorsqu'on a les biens réels, on croit que tout est dit et l'on s'assied au lieu de courir. Il y a deux richesses, celle qui laisse assis ennui, celle qui plaît et celle qui veut des projets encore et des travaux, comme est pour le paysan un champ qu'il convoitait et dont il est enfin le maître. car c'est la puissance qui plaît. Non point la puissance au repos, mais la puissance en action. L'homme qui ne fait rien n'aime rien. Apportez-lui des bonheurs tout faits, il détourne la tête comme un malade. Au reste, qui n'aime mieux faire la musique que l'entendre? Le difficile est ce qui plaît. Aussi, toutes les fois qu'il y a quelque obstacle sur la route, cela fouette le sang et ravive le feu. Qui voudrait d'une couronne olympique si on la gagnait sans peine? Personne n'en voudrait. Qui voudrait jouer aux cartes sans risquer jamais de perdre? Voici un vieux roi qui joue avec des courtisans. Quand il perd, il se met en colère. Et les courtisans le savent bien. Depuis que les courtisans ont bien appris à jouer, le roi ne perd jamais. Aussi, voyez comme il repousse les cartes. Il se lève, il monte à cheval, il part pour la chasse. Mais c'est une chasse de roi. Le gibier lui vient dans les jambes. Les chevreuils aussi sont courtisans. J'ai connu plus d'un roi. C'était de petits rois d'un petit royaume, rois dans leur famille, trop aimés, trop flattés, trop choyés, trop bien servis. Ils n'avaient point le temps de désirer. Des yeux attentifs lisaient dans leurs pensées. Eh bien, ces petits Jupiters voulaient malgré tout lancer la foudre. Ils inventaient des obstacles, ils se forgeaient des désirs capricieux. Changeait comme un soleil de janvier, voulait à tout prix vouloir, et tombait de l'ennui dans l'extravagance. Que les dieux, s'ils ne sont pas morts d'ennui, ne vous donnent pas à gouverner de ces plats royaumes. Qu'ils vous conduisent par des chemins de montagne, qu'ils vous donnent pour compagne quelques bonnes mules d'Andalousie, qui aient les yeux comme des puits, le front comme une enclume, et qui s'arrête tout à coup parce qu'elle voit sur la route l'ombre de ses oreilles. 22 janvier 1908.